Ce matin, j'aimerais vous parler du chemin de la transformation. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament en particulier, on a cette action de Dieu pour sortir le peuple d'Égypte. Et si vous regardez bien le parcours du peuple d'Israël, c'est aussi le parcours de l'Église de nos jours, dans le sens que quand nous venons au Seigneur, nous avons encore beaucoup à apprendre. Qui a encore besoin d'apprendre de la part du Seigneur? Amen. Et dans ce texte, finalement, nous voyons toute la grâce de Dieu, même dans l'Ancien Testament. Certes, c'était la loi, mais la grâce de Dieu a toujours été présente. Alors ce matin, j'aimerais voir avec vous quelque chose que j'ai personnellement découvert cette semaine, en lisant, en ayant le temps de fouiller encore dans les Écritures, parce qu'il y a quelque chose qui m'a... Vous savez, quand vous avez une sonnette d'alarme qui dit « va plus loin », va plus loin. Alors je vous encourage, quand vous sentez, vous aussi, vous avez cette sonnette d'alarme, allez plus loin. Amen. Deutéronome, chapitre 2, versets 14 et 15. Le temps où nous avons marché de Kadesh Barnéa au passage du torrent de Zered fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu du milieu du camp, comme l'Éternel leur avait juré. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les éliminer du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils aient disparu. Amen. Alors là, en lisant ce texte, vous allez vous dire, mais où est la grâce? La grâce que Dieu nous accorde n'empêche pas la responsabilité qui nous incombe. Nous ne pouvons pas utiliser la grâce comme un tapis sous lequel on cache tout et n'importe quoi. La grâce n'est pas une sauce vinaigrette qu'on met dans toutes nos salades. La grâce n'est pas un concept qui nous permet de vivre comme nous le voulons, comme nous l'entendons, mais la grâce, c'est un cadeau immérité que Dieu offre à ceux qui prennent la décision de marcher selon la loi de Dieu. Et il est important pour nous de saisir ces choses-là. Alors, en lisant ce texte, je me suis rendu compte et j'ai essayé de comprendre pourquoi une telle décision, pourquoi quelque chose d'aussi dur, on pourrait dire, et la manière de Dieu de faire. Alors certes, Dieu agit d'une manière particulière avec le peuple, mais je voudrais vous dire que nous servons un Dieu qui n'est pas injuste. Nous servons un Dieu qui est juste, un Dieu qui est saint. Ne mélangeons pas notre vision de la justice avec la justice de Dieu. Nous, on aime bien que Dieu nous fasse justice. Mais lorsque Dieu exerce sa justice en ce qui nous concerne, on a plutôt du mal. On pourrait presque dire, mais Seigneur, on se connaît, il n'y aurait pas un moyen de... Alors, je voudrais vous dire, il n'y a pas de passage caché, il n'y a pas d'entrée secondaire, il n'y a pas de possibilité avec Dieu de trouver un moyen d'éviter ce qui doit être vécu. Jésus lui-même dira, Père, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Est-ce que Jésus a bu la coupe? Et vous pensez que s'il ne l'a pas fait pour Jésus, qui est son fils unique, est-ce que Dieu nous fera éviter tout ce que nous devons éviter si nous ne marchons pas selon les principes que lui nous a donnés? Or, la grâce est en Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu pour la grâce qui nous est accordée en Jésus-Christ. Mais pour autant, il est important pour nous de saisir certaines choses. Alors, en lisant ce texte, j'ai commencé un tout petit peu à fouiller et on voit que Moïse se trouve avec ce peuple qui est si nombreux, qui sort d'Égypte et qui, en sortant du monde, l'Égypte, c'est l'image du monde, hein, a besoin encore de vivre une transformation. Quand nous venons au Seigneur, nous avons donné notre cœur au Seigneur, c'est le début, c'est le démarrage, c'est les starting blocks de la course avec Christ. Qui aime les Olympiades? La course, c'est un sport magnifique. Je suis non pratiquant, mais je la regarde. Je me dis, pourquoi courir si les autres courent? Il en faut qu'ils vont au pas. Donc, le Seigneur m'appelait être berger, pas coureur. Je laisse courir les autres. Mais l'image, c'est de celui qui se met dans les starting blocks et qui se prépare. et qui démarre au moment où le départ est donné, et qui court en gardant la trajectoire, qui fait de tout pour courir selon les règles. Alors si vous vous approchez du Seigneur, si c'est le début de votre foi, ne soyez pas étonnés que vous en voyez qui courent déjà loin. Ils ont commencé la course avant vous. Mais ce qu'il faut comprendre avec Dieu, le plus important, ce n'est pas arriver le premier. Le but, il n'est pas d'arriver le premier, mais c'est d'arriver. De couper la ligne d'arrivée. Et la joie et le bonheur est pour tous celui d'avoir vaincu, gagné. L'apôtre Paul dira, j'ai vaincu, j'ai gagné. Maintenant, désormais, la couronne qui m'est donnée, elle est pour moi, mais aussi pour tous ceux et celles qui suivront. Alors, courant, suivant les règles, n'ayons pas peur d'arriver derrière les autres. N'oubliez pas, le but c'est d'arriver. Et si vous devez vous arrêter pour aider quelqu'un, faites-le, vous ne serez pas pénalisé. Amen. Alors, dans ce texte, Moïse se trouve quand même en situation difficile. Deutéronome chapitre 1, verset 12 à 14, il dira « Comment pourrais-je à moi seul, comment porterai-je pardon, à moi seul la charge et le fardeau de vos contestations ? Prenez des hommes sages, intelligents et connus dans vos tribus et je les mettrai à votre tête. Vous m'avez répondu en disant « Ce que tu proposes de faire est une bonne chose. » On pourrait se dire, c'est mener d'une main de maître une solution qui plairait à tout le monde. Et finalement, le peuple dit, on y adhère. Pour autant, la réalité, c'est que le peuple n'a pas adhéré. Pourquoi ? Et je le regardais dans d'autres versions bibliques, dans une version hébreu-français, il écrit ceci, « Mais vous êtes pesants, contrariants et querelleurs. Comment puis-je supporter cela tout seul ?» Il va dans les détails, hein. C'est paf, paf, là on a l'impression que nous on a la version Moïse Light, et là c'est la version avec tous les ingrédients. Mais vous êtes pesants, contrariants et querelleurs. Et je me disais, Seigneur, combien de fois nous pouvons être pesants, contrariants et querelleurs. Cherchez toujours la petite bête. Cherchez toujours l'aiguille. Cherchez toujours une raison qui fasse qu'on puisse finalement faire croire que nous on a raison et les autres ont tort. Que Dieu nous garde. Parce que vous savez, le regard de Dieu, il est là, il est pour nous. En Deutéronome chapitre 1, versets 32 à 36, on voit que cette attitude, même si le peuple dit oui, on est d'accord, si on va plus loin dans les Écritures, on verra les conséquences. Il dit, dans cette circonstance, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur le chemin pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Dans son indignation, il fit serment en ces termes, « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai fait serment de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jephunné. Il le verra lui, et je lui donnerai à lui et à ses fils le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. » Quand on lit le texte, on voit que le peuple se trouve face à une marche qui devait durer une quarantaine de jours, à peu près. Une estimation, hein. C'est pas un jour près. Je n'ai pas utilisé les applications que nous avons maintenant qui vous donnent le kilométrage, le temps, le trafic. Mais la parole de Dieu nous dit que c'était un chemin qui devait durer quelques semaines. Mais quand ils sont arrivés là, ils ont voulu, encore une fois, envoyer des espions pour voir qu'est-ce qu'ils les attendaient. Et il y a eu un choix d'envoyer deux personnes pour chaque tribu. Et ces espions, ils sont partis dans ce pays et ce qu'ils ont vu, certes, ils ont vu une terre fertile, ils ont vu une terre où, dit la parole de Dieu, coule le lait et le miel. Mais en rentrant, le constat qu'ils en ont fait, c'est qu'ils sont 10 sur 12 revenus les mains vides. 10 sur 12 sont revenus avec un constat en disant « on n'ira pas, il y a des géants ». Il n'y en a que deux qui reviendront finalement avec une grappe de raisins. qu'ils ont dû ramener sur un bout de bois à force d'épaule parce que la grappe de raisin ne pouvait pas tenir dans une main, il fallait deux bonhommes pour la ramener. Et en disant, allons-y, parce que oui, c'est vrai, il y a des gens, mais l'Éternel combat pour nous. Amen. Alors si on commençait à faire des statistiques ce matin, les pourcentages seraient quand même particuliers. On pourrait se dire, le plus grand nombre a dit non. Mais voici le résultat. Dans notre vie chrétienne, Dieu nous place devant des situations et des circonstances qui sont là finalement pour nous faire grandir dans la foi. Soyons pas étonnés que du moment qu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on se trouve face à des géants qui sont devant nous, qui sont la projection de notre vie du passé. Pour quelqu'un, le géant, peut-être, ça sera ses addictions. Pour quelqu'un d'autre, le géant sera l'amour pour les choses matérielles. Pour d'autres, ce sera encore autre chose. Quels sont les géants qui s'érigent devant vous? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de les terrasser? David n'a pas eu peur de faire face à Goliath, un sacré bonhomme quand même. Pourquoi? Parce qu'il marchait dans les voies de Dieu. Et là, un peuple tout entier qui sait que Dieu les a amenés, les a fait sortir d'Égypte, ils ont vu la manière où Dieu a ouvert pour eux la mer Rouge, ils ont vu la manière où Dieu finalement a refermé la mer sur Pharaon et toute son armée, ils ont chanté des chants. Ah, ils ont loué Dieu. Et quelques jours plus tard, ils ont commencé à se plaindre. Et vous comprenez les paroles de Moïse qui dit, mais attendez, vous êtes quand même pesant, contrariant, querelleur, ayez-moi tout seul, c'est bon. Hein. Je peux le comprendre. Je peux comprendre que cet homme, il se dit, Seigneur, si toi tu n'es pas avec nous, moi j'irai nulle part, laisse tomber. T'as vu l'équipe que j'ai là? Ils sont compliqués, hein. Moi, j'imagine qu'à chaque fois que Moïse disait quelque chose, il devait entendre un bruit de fond, vous savez, comme quand vous vous approchez des abeilles. Hein, dis, c'est quoi? J'ai des acouphènes? Non, c'est le peuple derrière qui murmure. Et croyez-moi, des fois, il n'y a même pas besoin d'entendre la voix, on le voit juste au visage. Il y a des murmures qui se transmettent par le regard. Hein? Alors le peuple, en voyant qu'ils ont fait mal et ils en entendent la voix de Dieu leur dire voilà ce qui va se passer, ils pensent régler le problème à leur manière. Et là, je voudrais attirer notre attention à tous en disant faisons attention parce que parfois nos solutions ne font que nous ensabler davantage. Deutéronome chapitre 1, versets 41 à 46. Vous avez alors répondu en me disant « Nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons et nous combattrons tout comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'a ordonné. » Et vous avez pris chacun vos armes à la ceinture et vous avez cru facile de monter vers la montagne. L'Éternel m'a dit alors de leur dire « Ne montez pas et ne combattez pas car je ne suis point au milieu de vous. Ainsi, vous vous ferez mettre en déroute par vos ennemis. » Je vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. Vous avez été rebelles à l'ordre de l'Éternel et vous êtes montés audacieusement vers la montagne. Alors, les Amoréens qui habitaient cette montagne sortirent à votre rencontre et vous poursuivirent comme font les abeilles. Ils vous battirent en Seir jusqu'à Horma. À votre retour, vous avez pleuré devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta pas votre voix et ne vous prête pas l'oreille. Vous êtes encore resté à Kadesh autant de jours que vous y étiez resté auparavant. Amen. Quand Dieu nous demande de faire un pas de foi et nous ne le faisons pas, finalement, excusez-moi de vous dire ça, Dieu ne nous demande pas notre avis. Hein. On n'est pas en démocratie. Hein. C'est une théocratie. C'est Dieu qui commande. Je vous rappelle que le jour que vous avez dit au Seigneur, je te donne ma vie, votre vie, elle lui appartient. Non? C'est juste ou pas? Allô, tout le monde est là? Ah, ça me rassure. Donc, à un certain moment, Dieu leur dit, allez-y. Non, on n'y va pas. On a voté. Le peuple a décidé. On n'ira pas. Vous ne voulez pas y aller? Ok. vous ne rentrerez pas dans la terre promise. En effet, si tu n'es pas prêt à te battre avec ce que le Seigneur te demande de te battre, pourquoi tu devrais avoir la récompense qui est finalement au bout du combat que tu dois mener? Non, ça me semble logique. On ne va pas demander le salaire si on n'a pas travaillé. Si c'était comme ça, moi je fais le tour des entreprises qui sont là dans les voisinages. À la fin du mois, je vais les voir, mon salaire. Mais monsieur, vous n'avez pas travaillé, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, j'étais avec vous de cœur. Hein, parfois, j'entends, je fais des appels et j'ai personne qui vient. Mais ils sont tous là de cœur. C'est bien d'être de cœur, mais de temps en temps, soyez aussi de corps. Il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. Et là, la parole de Dieu, on voit qu'ils disent, mais écoute, on va y aller. Et ils sont partis, ils n'ont écouté personne. Ils ont dit, on va y aller maintenant, parce que vu la punition qui nous tombe, on va y aller. Et Dieu leur dit, n'allez pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas écouté, ils y sont allés. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et en lisant ce texte, je me suis rendu compte que finalement, c'est ce qui nous arrive quand nous, nous n'écoutons pas ce que Dieu nous demande et qu'on fait après de nos têtes. Et on essaye, nous, après de régler parce qu'on se rend compte qu'on a mal fait. Et alors, on se dit, attends, puisque je ne l'ai pas fait à ce moment, je vais le faire maintenant. Mais ce n'est plus ça ce que Dieu te demande. Tant que tu ne reviens pas à Dieu avec un cœur repentant, il se serait repenti. Est-ce que vous croyez que Dieu aurait accepté leur repentance? Oui. Amen. Donc la repentance est au centre de notre vie et de notre relation avec Dieu. Soyons capables de nous humilier devant Dieu, parce que celui qui s'humilie devant Dieu, Dieu le relève, mais celui qui reste dans son orgueil, Dieu l'abaisse. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont partis, ils sont allés au combat et ils en ont pris pour leur grade. Et il dit, à votre retour, vous avez pleuré devant l'Éternel, mais l'Éternel n'a pas écouté vos voix et n'a pas prêté oreille à vos paroles. Il y a un moment, il ne faut pas s'étonner que Dieu dise stop, c'est bon. Là, vous allez vous rendre compte que je ne suis pas d'accord avec vous. Et ce qui m'a interpellé particulièrement, vous êtes encore resté à Kadesh autant de jours que vous y étiez auparavant. En effet, vous n'avez pas avancé d'un mètre. Et parfois, il y a des choses dans notre vie qui nous empêchent d'avancer. Il y a des situations qui nous font faire du surplace. Et si on fait du surplace, est-ce que c'est peut-être parce qu'on n'a pas obéi à Dieu? Si le peuple avait accepté de faire ce que Dieu lui demandait, qu'est-ce qu'il se serait passé? Victoire. Rentrer dans la terre promise. Le deuxième mois, y déposer le permis de construction. Non? 3 mois après, la maison était construite, tout le monde était installé et y profitait du lait et du miel. Mais parce qu'ils n'ont pas voulu, ils ont vécu 40 ans dans le désert, ils ont mangé du sable matin, midi et soir. C'est ça, hein? Et finalement, tous les rêves qu'ils avaient pu avoir, en tous les cas, ils se sont dépossédés eux-mêmes de la bénédiction que Dieu voulait leur donner. Alors, si on le lit comme ça, on se dit, « Waouh, tu rates une fois, c'est fini !» Non. Et c'est justement pour ça que je voudrais ce matin vous amener à analyser le texte que nous avons lu et à le regarder différemment. Alors, les versets que nous avons lus disent « Le temps où nous avons marché de Kadesh Barnéa au passage du torrent de Zered fut de 38 ans jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu au milieu du camp comme l'Éternel l'avait juré. Parce qu'ils ont désobéi, Dieu les a condamnés à errer dans le désert pendant 38 ans. » On est d'accord ? Et dit le verset 15, « La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les éliminer du milieu du camp jusqu'à ce qu'ils aient disparu. » Waouh ! C'est beaucoup mieux d'avoir la grâce de Dieu qu'avoir d'affaire à Dieu. Si nous pensons pouvoir finalement gagner avec nos principes vis-à-vis de Dieu, on se plante. Mais en regardant ce texte, j'ai été interpellé par le nom qui n'est pas une adresse que j'ai trouvée sur mon GPS, Kadesh Barnéa. Mais en regardant dans les textes et en regardant la signification, Ceci veut dire lieu saint de l'errance. Et en le lisant comme ça, je me suis dit, Seigneur, finalement, tu aurais pu les balayer d'un seul coup. Il aurait pu. Mais en réalité, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, ça a été de les amener dans l'errance, dans un lieu saint. Parce que Dieu voulait finalement sauver leur âme. Certes, ils n'avaient pas la possibilité de rentrer en terre promise, mais Dieu voulait sauver leur âme. Et il les a amenés à vivre des expériences qui étaient là finalement pour qu'ils puissent changer dans leur cœur. Dieu veut purger nos cœurs de toute mauvaise intention, de toute mauvaise pensée, de tout péché, de toute situation qui fait partie de notre passé. Et des vrais, vous en avez qui avancent très vite avec le Seigneur. On se dit, mais comment est-il possible? En quelques années, déjà, regarde comme il a fait des pas de l'avant. Mais peut-être parce qu'il a accepté ce que toi, tu n'as pas voulu accepter. Qu'est-ce que tu as finalement voulu retenir, garder en pensant y gagner? Finalement, tu as perdu du temps. Et là, 38 ans d'errance, mais Dieu a choisi un lieu saint de l'errance. Ce désert, c'était un lieu mis à part, un lieu saint dans lequel Dieu voulait se manifester à son peuple pour le reprendre, le conduire, l'enseigner par la manne, l'écaille ou encore l'eau du rocher. En effet, c'est pendant cette période-là, ils ont vécu des choses fortes. Dieu aurait pu lui dire, vous avez désobéi, débrouillez-vous dans le désert. Faites-vous des gâteaux de sable. Vous avez déjà vu les enfants, quand vous les amenez à la plage, ils font tout avec le sable. Hein? Ils vous font des châteaux, ils font, et moi les miens, ils me ramenaient des gâteaux de sable. Mange, papa. Non, merci, j'ai une digestion un peu bloquée aujourd'hui, fils. Hein? Oui, c'est un sablé. Ouais. Donc, si des enfants font des gâteaux de sable, il y a un preneur. Vous allez voir Guy. Il aime bien les sablés. Mais dans le texte, on voit que Dieu, finalement, ce qu'il veut faire, c'est changer leur cœur. Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 5. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur, et si tu observerais ses commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas, et que tu n'avais pas, qui n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. Amen. Quand on est enfant ou quand on a des enfants, on sait que les bêtises, elles sont là. Quand on entend trop de silence, on se dit « qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» Avec mon épouse, dès qu'on entendait un silence qui durait plus de 25 secondes, c'était alarme, alarme générale. Et on fouillait la maison pour les trouver, et des fois, ben, on n'était pas, bon, on n'était pas déçus. Hein. Et vous pensez que Dieu, il nous rejette comme ça ? Dieu est un père, et un père qui aime. Alors certes, il peut nous sembler un père qui est dur, mais non. En effet, il fait tout pour que nous puissions atteindre la vie éternelle avec lui. Et si ça passe par moment, par le fait de nous punir, il ne le fait pas avec méchanceté. Mais il le fait avec la volonté de nous amener dans ce cheminement de la sanctification et de la sainteté pour que nous puissions un jour, frères et sœurs, nous retrouver devant lui et non pas être séparés de lui pour l'éternité. On a tous des choses avec lesquelles on se bat. Tout le monde n'est pas parfait. Non, personne n'est parfait. S'il y en a qui se disent, mais ouais, c'est vrai, tout le monde n'est pas parfait, pasteur. Je vais dire, ouais. Personne. On a tous nos défauts. Et on a tous besoin que le Seigneur, par moment, nous amène un peu dans le désert, dans une errance sainte qui nous amène finalement à faire le tri. Parce que c'est quand on se trouve dans ces situations-là que Dieu nous aide à faire du ménage dans notre vie, de nous libérer de tout ce qui ne sert à rien parce que ce poids est trop lourd et finalement, on s'enlise. On a besoin de libérer dans notre cœur et de dire, Seigneur, je reconnais. Vous prenez Jonas. Oui, ce n'était pas le désert, mais il faut y aller dans le ventre du poisson. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait dans le ventre du poisson? Il a reconnu. Non? Il s'est repenti. Il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Allez, maintenant on va faire ce que je t'ai dit. Et il recommence. Je ne suis pas content. Il dit, attends, je vais te donner une autre leçon. Le ricin qui pousse. Ah, l'ombre. Ça fait du bien hein, quand il y a de la chaleur, un peu d'ombre. Moi, quand je me balade avec mon petit chien, il cherche toujours les coins d'ombre. Peu importe si moi je suis au soleil, elle est à l'ombre. Elle rase les murs. J'ai dit, attends, encore un peu, on va être dans les caniveaux là. Et je peux imaginer que finalement, lui, il s'est dit, Seigneur, tout va bien. Et Dieu lui enlève cet ombre. Il dit, attends, c'est pas normal. Il dit, attends, toi, tu voulais que je détruise Ninive. Il dit, mais je savais que tu es un Dieu de grâce. Dans l'Ancien Testament, je savais que tu pardonnes. Je savais que tu es capable de changer d'idée. Il ne change pas d'idée pour changer d'idée, mais Dieu est capable de dire, ok, je n'accomplirai pas la punition parce que leur cœur s'est détourné du péché, il est revenu à moi. Il appose son sceau de grâce. Amen. Ce n'est pas du sursis, c'est de la grâce. Alors, en lisant ce texte, je me suis dit, c'est bien, il y a un départ. Hein, on est dans le finalement, on passe dans le désert de l'errance, un désert saint de l'errance. C'est pas mal, hein, pour arriver finalement au torrent de Zered. Et alors là, j'ai commencé à chercher, parce que je me suis dit, si c'est ce que je pense, c'est bon. Et c'était encore mieux que ce que je pouvais penser. Zered est un lieu qui marque la fin de l'errance, qui veut dire ruisseau de l'osier ou croissance exubérante. En effet, Dieu les a ramenés par un temps de désert où finalement, dans ce temps de désert, ils devaient abandonner ce qui n'était pas bon pour pouvoir rentrer finalement là dans une croissance exubérante. C'est quoi une croissance exubérante? Une croissance qui nous dépasse, non? Est-ce qu'on voudrait pour l'église de Jésus-Christ, pour l'église de Arles, une croissance exubérante? Qui le veut? Attention. Parce que d'abord, c'est le désert de l'errance. Dieu veut que nous ayons une vie exubérante devant lui. Dieu désire que nous puissions, chacun d'entre nous, finalement, connaître la fin du désert. Mais on ne peut pas connaître la fin du désert tant qu'on n'en avons pas abandonné tout ce qui ne va pas. Et leur première erreur, c'était de ne pas vouloir se battre. Là où le Seigneur leur disait, battez-vous avec vos géants. Mon frère, ma sœur, si tu refuses de te battre avec les géants qui se placent devant toi, tu n'iras pas plus loin. Parce que finalement, tes géants auront eu raison de toi, pas de Dieu. Ce n'est pas les géants de Dieu, hein. C'est tes géants. C'est toi qui leur as donné la hauteur, c'est toi qui les nourris, c'est toi qui les tiens debout à cause de tes résolutions. Loin de la volonté de Dieu. Mais si tu fais confiance à Dieu, les géants, Dieu les fait tomber. Amen. Il te donne la force de prendre la victoire et de leur couper la tête pour que ces géants n'aient plus à reprendre de place ou d'autorité dans ta vie. Mais il est question pour toi de placer ta foi dans la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Crois dans la parole de Dieu et tu verras que ta vie changera. Crois dans le fait que le Seigneur te demande d'abandonner des choses qui n'ont pas sens dans ta vie et tu verras la bénédiction de Dieu. Tu verras que ce que tu pensais atteindre peut-être dans le temps, Dieu peut te le donner en un instant. Non? Une croissance exubérante. Quelque chose qui finalement, tu dis, mais attends, c'est pas possible. Hier, il était comme ça et aujourd'hui, regarde. Et dans une semaine, et tu te dis, mais prochainement, il faut faire quoi? Mais que Dieu fasse que l'église de Jésus-Christ ait une croissance exubérante, non? Que Dieu fasse que ce lieu devienne trop petit. Pas trop vite, pasteur, quand même. Ah non, moi je veux que ça soit exubérant. Pas pour que nous on se dise, hey, t'as vu, waouh. Si ça arrive, c'est parce que Dieu le fait. Et si ça arrive, c'est parce que chacun a fait ce que Dieu attendait de lui. Alors on peut choisir d'être pesant, d'être tout ce qu'on a vu, je ne vais pas répéter, vous l'avez certainement déjà mémorisé, ou on peut choisir de dire, Seigneur, dans ce temps d'errance dans ma vie, moi je veux tout abandonner, je veux tout mettre de côté pour que finalement, je puisse, Seigneur, passer le ruisseau de la croissance exubérante. Amen. Et vous vous rendez compte, à un moment, vous allez dans votre famille, elle va vous dire, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a des enfants qui sont là, il y en a un tout au fond. Quand je suis arrivé ici, il y a 4 ans en arrière, un joli bonbon. Maintenant, vous le regardez encore un peu, il va falloir que je prenne l'échelle pour lui dire bonjour. Je me dis, tes parents, ils t'arrosent tous les soirs ou quoi ? Il a dépassé son père et sa mère. Lui, il a tout compris. Croissance exubérante. Hein ? Passe la recette à papa. C'est trop tard. C'est jamais trop tard pour bien faire, mon frère. Et la croissance doit être vers le haut, pas vers... Fais pas comme moi. Le Seigneur veut qu'on puisse grandir spirituellement dans notre vie. Et ne dites pas que c'est trop tard, parce que vous avez vu Caleb. On en a parlé dernièrement. Caleb qui, à un certain moment, il se retrouve face au géant et dit « Moïse m'avait promis que j'aurais cette montagne, tu me la donnes, je vais m'en occuper, moi, des géants. » 85 ans, il dit, il n'y a pas de souci, moi j'y vais, je m'en occupe. Pourquoi ? Parce qu'il marchait selon la volonté de Dieu. Mon frère, ma sœur, quel qu'il soit ton âge, ce n'est jamais trop tard pour te battre avec tes géants et finalement remporter la victoire, parce que tu marches avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui va remporter la victoire avec toi et pour toi. Il est question pour nous d'une croissance exubérante ou expansionnelle. La question, c'est que lorsque nous traversons des temps de désert, nous sommes assaillis par le sentiment de perdre notre temps, d'être inutile et inefficace dans tout ce que nous faisons. Et tout devient dur, non ? Peut-être certains vont se dire ce matin, notre relation avec Dieu, elle est difficile, c'est dur. Notre faculté à ressentir sa présence, c'est dur, Seigneur. Seigneur, même la lecture de la Bible, c'est dur. En effet, il y a des choses qui doivent mourir et disparaître à tout jamais dans notre vie pour que finalement arrive la croissance exubérante, pour que finalement nos yeux s'ouvrent, on lit la parole de Dieu et on saisit des choses qui avant nous étaient cachées. Ou finalement nous prions et nous voyons des choses se débloquer d'un instant. Pourquoi ? Parce que nous avons arrêté de compter sur nos principes, mais on se place devant Dieu, on dit « Dieu a dit ceci, moi j'y crois ». Il n'y a plus rien à faire. C'est comme ça. Dieu le fera. Je n'ai pas de doute. Vous vous rappelez de cet homme qui dit, Seigneur, si tu peux. Qu'est-ce qu'il lui dit Jésus ? Si je peux ? Si tu crois. Vous savez, le problème ne vient jamais de Dieu. C'est toujours le nôtre. Et cet homme, il a été vrai, sincère. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il a été vrai. C'est pour cela que Jésus a agi. Soyons vrais avec Dieu. Si nous nous accrochons au Seigneur, notre voyage dans le désert de la sanctification produira un fruit qui honorera Dieu et qui nous procurera une joie exubérante. Moi, j'imagine Josué et Caleb revenir avec cette grappe de raisin. J'ai prêché sur un texte, oui, ce texte-là, mais pas avec la même explication, la même signification. Et dans l'auditoire, j'avais un vigneron qui venait de se convertir avec son épouse en Alsace. Et cet homme, il vient me voir à la fin, « Frère, si vous savez, on a une année catastrophique, vous pouvez prier pour moi. » Je dis, « Est-ce que tu crois que Jésus peut changer la situation dans ta vigne ?»« Oui, je le crois, de tout mon cœur. » Et on a prié. Quand ça a été le temps de la récolte, il est venu me voir et me dit, « Pasteur, jamais, jamais, on a eu une récolte aussi bénie. Mes voisins, ils nous regardent avec jalousie. » Il dit, parce que chez eux, le raisin, il est tout rikiki. Chez nous, on a des grappes de raisin qui dépassent le plafond. Je dis, mais tu sais, quand on se place entre les mains de Dieu et que notre foi, elle est sincère, elle est vraie. Et ça a été pour lui un indicateur très fort dans sa vie. Il a commencé à placer sa vie, lui, son épouse, leur foyer, il est accroché au Seigneur, non pas parce que le Seigneur bénit leur vigne, mais parce qu'ils savent que obéir à Dieu bénit notre vie. Et certainement, il y a un fruit qui nous réjouit. Certainement, il y a quelque chose qui change la situation. Le désir de Dieu est de nous émonder pour que nous portions plus de fruits. Acceptons que le Seigneur coupe certaines choses dans notre vie. C'est bon d'être émondé. Hein? Surtout quand l'été arrive, on aimerait perdre du poids. Hein? On aimerait être émondé de ceux qui ont trop et se retrouver avec une svelte. Hein? Mais ce n'est pas de ça que Dieu te parle. Dieu te parle de toutes ces ramifications dans ta vie qui n'ont pas lieu d'être, qui finalement, il te pompe tes énergies, il te pompe tes forces, il te pompe tout ce que Dieu voudrait te donner, pour que finalement, dans ta vie, au lieu d'être dans l'exubérance, c'est la disette. Tu regardes tes grappes de raisin, tu dis, ouais, avec ça, je ne fais pas grand-chose. Il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de ceci, c'est la disette. Je suis réduit dans ma vie spirituelle, tout se réduit à vivre presque de l'aumône spirituelle. Je dois aller emprunter auprès des uns et des autres, alors que Dieu voudrait que tu n'empruntes jamais, que tu prêtes à tous, mais que tu n'empruntes jamais. C'est ça le désir de Dieu. Le torrent de Zéred est synonyme du torrent de la grâce surabondante du Père. C'est là que le Seigneur veut nous conduire pour que nous puissions vivre la plénitude. Comprendre la grâce, la saisir et finalement faire que cette grâce soit pour nous quelque chose qui arrose notre vie et notre terre et la terre produit du fruit et du fruit en abondance. Un jour, un frère m'a ramené des photos d'Israël et dans ces photos, il y a quelque chose qui m'a tout de suite frappé aux yeux. Hein, c'est qu'on voyait du côté d'Israël, là où le peuple d'Israël cultivait, c'était vert. Il y avait des fruits. Il y avait toutes sortes d'abondances. Et juste à côté, c'était le désert, la sécheresse. Parce que finalement, les autres ne voulaient pas travailler, ne voulaient pas exercer un métier quelconque, qu'ils attendaient de récolter le fruit que les autres faisaient pousser. Et lorsque le peuple juif a dû abandonner certains territoires qui étaient... cultiver tout, mais finalement, ceux qui les ont occupés, ils n'ont pas pris soin et tout est revenu au désert. Si dans ta vie, tu ne laisses pas et tu n'agis pas selon ce que le Seigneur te demande, ta vie ressemblera à un désert. Il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de nouveau. Mais si aujourd'hui, tu te dis, oui, mais moi, je suis dans un moment de souffrance, de peine, le Seigneur est en train de me passer à la moulinette. Regardez ce verset, si on peut ensemble, psaume 126, versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cris de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre s'en revient avec des cris de triomphe quand il porte ses gerbes. Moi, je crois que si aujourd'hui il y a des choses qui nous font un peu souffrir, parce qu'il y a des choses, c'est dur d'arrêter. Il y a des choses, c'est difficile de dire stop, c'est plus bon pour ma vie, je le sais, mais j'y arrive pas. Je dis toujours, tant que cette situation est ton ami, ben, Dieu te sépare de tes ennemis, pas de tes amis. Mais du moment que telle chose, tel péché, telle situation dans ta vie, tu la considères finalement quelque chose que tu dois et tu peux... t'en séparer, le Seigneur t'aidera. Alors certes, ça a un prix. Ça a un prix hein, de quitter et de suivre le Seigneur. Ça a un prix de ne plus faire selon l'esprit de ce monde. Mais celui qui sème avec larmes moissonne avec des cris de triomphe. Amen. Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre s'en revient avec des cris de triomphe quand il porte ses gerbes. Êtes-vous prêt à traverser le chemin que Dieu a prévu pour vous ? Il essaie tous ceux qui ne peuvent entrer dans sa présence. Quand on vient le dimanche matin, on vient pour entrer dans la présence du Seigneur. C'est vrai ? Mais il y a des choses qui ne pourront jamais rentrer dans sa présence. Et je vous déconseille de les laisser devant la porte pour les reprendre en partant. Je vais vous dire, abandonnez-les sur le chemin et pour entrer, changez de route. Pour ne pas être tenté de les récupérer. Abandonnez tous ceux qui vous ralentissent. Faites mourir ceux qui vous font tourner en rang, voire même vous faire du surplace. Dieu dira, c'est pour ça que vous n'avez pas avancé. Rappelez-vous du voyage d'Abraham pour atteindre la promesse. Dieu lui a dit, va, quitte. Quitte ta maison, quitte ton père, quitte ta mère, quitte tes propriétés, quitte tes terrains, et je te donnerai quelque chose de meilleur. Est-ce que vous pensez que la promesse que Dieu a fait à Abraham, elle est pour nous aussi ? Pourtant, c'était le père de la foi. Il aurait pu dire, Seigneur, j'ai la foi, mais j'ai aussi la terre. Parce que son père n'était pas pauvre. Mais Abraham, il a saisi. Et pendant son cheminement, Abraham, il a dû aussi abandonner des choses pour pouvoir devenir celui que Dieu voulait qu'il soit. Alors Dieu changera de nom à Abraham. Et je vais vous dire que Dieu a prévu de changer aussi notre prénom. Et ce prénom, il est écrit sur un caillou blond. Et un jour, on le recevra. Alors, il faudra refaire les présentations dans le ciel. Hein? Parce qu'on aura changé de prénom. Hein? Si j'appelle quelqu'un, il va me dire, ah non, attends. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est. Et moi, je crois que le Seigneur saura nous aider, frères et sœurs, à y arriver. Comme je disais tout à l'heure, le but, c'est pas d'arriver le premier, c'est d'arriver. Et peut-être que ce matin, on peut ensemble faire encore un petit bout de chemin. Et si quelqu'un est fatigué, je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, prends la main de ton frère, de ta sœur qui est à côté, et allons-y ensemble. Prions les uns pour les autres encore ce matin, dans notre cœur. Demandons au Seigneur encore son aide. Et en même temps, Seigneur, merci pour les déserts que tu as préparés devant nous, des déserts nécessaires pour que nous puissions abandonner, Seigneur, toute forme d'idolâtrie, abandonner toute forme de religiosité, abandonner toute forme, Seigneur, d'œuvre charnelle, abandonner, Seigneur, toute forme de colère, Seigneur, abandonner tout ressentiment, Seigneur, abandonner nos vieilles habitudes, Seigneur, pour que finalement, Seigneur, nous soyons un peuple qui t'honore non pas seulement de la bouche, mais aussi du cœur, que nous puissions être, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui élèvent leurs mains vers toi, pour te glorifier, ils élèvent des mains pures. Seigneur, tu as décidé, tu as préparé d'avance pour nous un chemin, Seigneur, qui est plus ou moins long à la base de notre compréhension et de notre obéissance. Seigneur, je te prie que tu nous aides tous à arriver au ruisseau, Seigneur, de l'exubérance. Que nous puissions, Seigneur, voir les choses se développaient à une telle vitesse. Seigneur, c'est des années que l'Église, elle prie, elle pleure pour voir des âmes arriver, Seigneur, et nous te prions, donne-nous, Seigneur, des moissons exubérantes. Nous voulons voir des âmes s'approcher de toi, mais pour cela, Seigneur, nous aussi, nous avons besoin d'abandonner ce qui ne va pas, que nous ne soyons pas nous-mêmes de scandale, que nous ne soyons pas nous-mêmes, Seigneur, de pierres d'achoppement, mais que nous puissions être trouvés fidèles comme Josué, comme Caleb, qui entrèrent dans ces terres que tu leur avais promises. Seigneur, merci de ta bonté, de ta miséricorde, de ta fidélité, Seigneur. Merci d'être celui qui nous reprend comme un père fait avec ses enfants. Ton amour, Seigneur, nous dépasse. Seigneur, que ta grâce soit par nous acceptée, aimée et respectée pour la gloire de ton nom. Et au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.